Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 11 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal de ce mardi. Les autorités ont ouvert une enquête et explorent toutes les pistes après l'explosion meurtrière survenue à New Delhi en Inde qui a fait au moins 8 morts et 20 blessés. C'est un bilan provisoire. En France, Nicolas Sarkozy est sorti de prison. La cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de l'ancien président sous contrôle judiciaire. Le Premier ministre australien Anthony Albanese affirme que la destitution du gouvernement de Gough Whitlam il y a 50 ans jour pour jour a été un séisme dont les répercussions se font encore sentir dans le paysage politique australien. Et on passe au journal de ce 11 novembre. Les autorités ont ouvert une enquête et explorent toutes les pistes après l'explosion meurtrière survenue à New Delhi. En Inde, qui a fait au moins 8 morts et 20 blessés, un bilan provisoire. L'explosion s'est produite vers 19h dans une Hyundai à un feu rouge, détruisant les véhicules stationnés à proximité du Fort Rouge, forteresse du XVIIe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des monuments les plus emblématiques de l'Inde. Reportage Abdullah Erali pour Radio France Internationale.
L'explosion s'est produite vers 18h52 lorsqu'un véhicule s'est arrêté à un grand carrefour de Delhi près du Fort Rouge et d'une station de métro. C'est un secteur emblématique, touristique et très fréquenté. Le lieu présente une véritable scène de dévastation. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et plus d'une dizaine de blessés après cette détonation survenue en pleine heure de pointe. La police et l'agence nationale d'enquête, l'unité antiterroriste de la police, sont mobilisées pour recueillir les premiers indices. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que toutes les possibilités sont envisagées et qu'aucune piste n'est écartée tant que les analyses scientifiques ne sont pas achevées. Coïncidence troublante, cette explosion intervient le jour même où plusieurs saisies d'explosifs ont été signalées, notamment à Faridabad, une ville située à une quarantaine de kilomètres du site de l'explosion.
En France, Nicolas Sarkozy est sorti de prison. La cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de l'ancien président français sous contrôle judiciaire. On écoute Nicolas Sarkozy.
The law has been applied. I will now prepare for the appeal. My energy is focused solely on proving my innocence. The truth will prevail. This is a lesson life teaches us. The rest of the story remains to be written.
Et maintenant, les explications de Margot Ratezic pour Radio France Internationale.
Le droit a été appliqué, la vérité triomphera. Premier mot de Nicolas Sarkozy sur ses réseaux sociaux, juste après sa libération de prison. La cour d'appel a donc donné un avis favorable à la demande de remise en liberté déposée par ses avocats. L'ancien président français a passé très exactement 21 jours derrière les barreaux, condamné en première instance dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une condamnation immédiatement suivi d'un appel. Nicolas Sarkozy est donc présumé innocent en attendant son deuxième jugement. Ce sera en mars de l'année prochaine. Et bien que présumé innocent, l'ancien chef d'État reste sous un contrôle judiciaire strict. Je vous propose d'écouter la réaction de maître Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy.
Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel.
Maître Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Et en marge de son contrôle judiciaire, l'ancien président a notamment l'interdiction de quitter le territoire français. Interdiction aussi d'entrer en contact avec d'anciens responsables libyens ou encore de hauts responsables judiciaires français. Et parmi eux, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, par ailleurs ami de Nicolas Sarkozy.
La première visite en Nouvelle-Calédonie depuis hier de Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. Explication Benoît Ferrand pour Radio France Internationale.
La nouvelle locataire de la rue Oudinot est en effet arrivée ce matin en Nouvelle-Calédonie, où elle restera 5 jours. Première étape, le Sénat coutumier. Stephen Nipat.
Une image, un symbole. Naïma Moutchou au Sénat coutumier offrant du thé à la menthe. Comme on le fait chez moi au Maghreb pour écouter avant de répondre. Un geste d'amitié mais aussi une méthode, écouter avant d'agir. Dans la salle, respect et attente, les coutumiers saluent la démarche mais rappellent que la parole de l'État se juge aux actes. Le FLNKS, par la voix d'Hervé Tiantaouva de l'Union Calédonienne, refuse de revenir à la table sans reconnaissance du peuple kanak dans la future loi constitutionnelle. Bougival ne garantit rien à la souveraineté kanak. En face, les loyalistes expriment leur lassitude. Johan Le Courrieux, maire et LR de Dimbéa, parle d'un pays fatigué par les promesses non tenues. Et Philippe Michel, président du groupe Calédonie Ensemble au Congrès, réclame un signal fort de Paris pour restaurer la confiance. Entre gestes symboliques et attentes politiques, la ministre veut ouvrir un nouveau cycle de discussion avant la loi organique prévue pour 2026. Mais ici, le message est clair. Écoutez, oui, mais maintenant, il faut prouver.
Naïma Moutchou débutera sa journée de mardi par la traditionnelle commémoration de l'armistice de 1918, place Bir Hakeim à Nouméa, avant de commencer ses premiers échanges avec les formations politiques locales, reçues une par une et non ensemble, pour le moment en tout cas. Mercredi, la ministre des Outre-mer se rendra en province nord à la rencontre notamment des jeunes du RSMA, régiment du service militaire adapté, à Koné.
En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese affirme que la destitution du gouvernement de Gough Whitlam, il y a 50 ans jour pour jour, a été un séisme dont les répercussions se font encore sentir dans le paysage politique australien. Gough Whitlam a été destitué sur le perron de l'ancien Parlement le 11 novembre 1975, en pleine impasse politique alors que l'Australie était menacée de coupures de financement pour les services essentiels. Le chef du Parti libéral, Malcolm Fraser, avait alors refusé d'adopter le budget de Gough Whitlam, provoquant une crise constitutionnelle que le gouverneur général, Sir John Kerr, a résolue en limogeant le Premier ministre et en nommant Malcolm Fraser à sa place. Anthony Albanese a annoncé son intention d'ériger une statue devant l'ancien Parlement pour commémorer cette destitution qu'il qualifie de complot.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Le chef des services de renseignement en Australie a mis en garde contre le risque que l'intelligence artificielle n'amplifie la radicalisation et la désinformation en ligne. Il a notamment pointé du doigt les agents russes comme une source majeure de diffusion de fausses informations et de discours violents. L'utilisation de grands modèles de langage comme ChatGPT se répand, mais les experts affirment que certains chatbots d'intelligence artificielle propagent involontairement des messages désinformatifs. Carl Miller, fondateur du Centre d'analyse des médias sociaux de Demos au Royaume-Uni, estime que le plein potentiel de l'intelligence artificielle reste encore inconnu.
These chatbots that are increasingly going to be used to kind of interrogate the internet and paint pictures for people to learn about the world, they are vitally important. And how they get trained and what they end up therefore saying, this is going to be basically the kind of crucible of a whole new kind of really powerful and quite unseen influence and power.
À un mois de l'entrée en vigueur des premières lois australiennes au monde sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a apporté son soutien à l'initiative de son gouvernement. Des plateformes comme Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube et Reddit seront soumises aux nouvelles restrictions d'âge. Les comptes des personnes de moins de 16 ans seront désactivés ou supprimés dès l'entrée en vigueur de la loi le 10 décembre prochain. Les députés libéraux se réuniront à Canberra demain, leur parti profondément divisé s'apprêtant à abandonner son engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le parti négociera ensuite une politique commune avec son partenaire de la coalition, le Parti national, dans les jours suivants. L'ancien premier d'Australie méridionale, Jay Weatherill, a été nommé prochain haut-commissaire auprès du Royaume-Uni. Il a été le 45e premier de cet État et a contribué à la conclusion d'importants accords pour la construction de sous-marins en Australie méridionale. Et puis l'Australie a observé une minute de silence pour commémorer le 107e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Le jour du souvenir est l'occasion d'honorer toutes les personnes qui ont combattu et sont mortes à la guerre depuis. L'année 2025 marque également le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Des cérémonies se sont déroulées au monument commémoratif à travers le pays. Le général Greg Melich a prononcé un discours au mémorial de guerre à Canberra.
As we gather for another Remembrance Day ceremony, it is fitting that we remember the sacrifice of so many who have allowed us to enjoy the way of life we enjoy today. The more than 103,000 names on the honour rolls and the sacred site behind me are a stark reminder of the price paid by so many and their families. We also remember too the tens of thousands who gave their health.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 34 degrés. Adélaïde, 19. Melbourne, 14. Hobart, 13. Canberra, 18. Sydney, 28. Brisbane, 28. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 29 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. h 13 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports de ce mardi et vous êtes en compagnie de notre collègue Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football. Les résultats de la 12e journée de la Ligue 1 en France. Rennes bat le Paris FC sur le score de 1-0. Très beau résultat de Marseille face à Brest sur le score de 3-0. Lens va battre Monaco sur le Rocher sur le score de 4-1. Match nul 1 partout entre Le Havre et Nantes. Match nul 1 partout également entre Lorient et Toulouse. Metz bat Nice sur le score de 2-1. Angers bat Auxerre sur le score de 2-0. Strasbourg bat Lille sur le score de 2-0. Et le Paris Saint-Germain qui accroche une victoire à Lyon, donc face à l'OL, dans les toutes dernières minutes de ce match sur le score de 3-2. D'ailleurs, on va écouter la conférence de presse du buteur sauveur du Paris Saint-Germain, João Neves.
Je suis petit et qu'il s'est oublié de moi. Pour moi, c'est un point fort de mon jeu et ça se passe sur l'entraînement, sur le échauffement, donc je suis prêt pour ce type d'action, ce type de moment pour faire la lutter avec la tête.
Elle fait du bien cette victoire parce qu'elle vous remet dans le bon sens aussi.
Ouais, bien sûr, on continue en première, ça c'est le plus important, que l'équipe gagne. c'est pas mon but, c'est pas le but d'autre jour, c'est toujours l'équipe le plus important.
Vous attendiez à ce type de confrontation aussi face à l'OL qui vous a titillé jusqu'au bout quelque...
Ouais, bien sûr, OL c'est une grande équipe, ils sont comme nous, ils donnent tout sur le terrain pour chercher la victoire, pour gagner le championnat. Mais comme j'ai déjà dit, on a entré plus fort sur le match et jusqu'à la fin on a pas arrêté. Donc je pense que c'était la clé pour cette victoire.
Revenir premier avant la trêve internationale, c'est aussi marquer les esprits quelque part.
Ouais, ça nous donne un confort, mais on sait que cette championnat c'est très difficile. Les équipes sont très très fortes et on peut pas relaxer à chaque moment. Donc je pense que ça c'est une démonstration de notre travail, de notre esprit.
João Neves, donc le sauveur du Paris Saint-Germain face à Lyon. On écoute également le défenseur parisien Lucas Hernandez.
Globalement, on fait un bon match. Deux, trois petites erreurs de placement sur les buts des Lyonnais. Quand Lyon a le ballon contrôlé, ils n'ont pas de pression. Je pense qu'il faut pas être aussi haut. Il faut mieux gérer la ligne, être un peu plus bas. Mais bon, c'est des ajustements pour le futur. En espérant régler ça, parce que c'est vrai que c'est des moments pas faciles, surtout quand tu mènes ici et il y a un score comme ça. Et après, bon, ce but à la fin du match qui nous fait un bien extraordinaire.
Lucas Hernandez, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain revient en tête avec 27 points devant Marseille, deuxième avec 25 points, Lens est troisième avec 25 points également, Strasbourg est quatrième avec 22 points et Lille est cinquième avec 20 points. En bas de classement, eh bien, ça se complique pour certaines équipes, notamment Nantes qui est 16e avec 10 points, Lorient 17e avec 10 points également et Auxerre qui ferme la marche 18e après une belle saison l'année dernière. La J-Auxerre est bien dans une situation compliquée en cette saison de 2025-2026, 18e lanterne rouge de ce championnat avec 7 petits points. Alors on va faire un point sur le football en Europe maintenant avec Victor Missisrano et ça commence par une très belle victoire de Manchester City.
La City est de retour, victoire 3-0 dans un match à sens unique avec des buts d'Erling Haaland, Nico Gonzalez et Jérémy Doku, le Belge élu homme du match. Les Citizens se replacent dans la course au titre, ils sont dauphins d'Arsenal et reviennent à 4 longueurs de la tête. Pour le 1000e match de Pep Guardiola dans sa carrière d'entraîneur, son équipe a signé une grande prestation, un succès que savoure le capitaine Ruben Dias.
On vit pour des matchs comme celui-ci et il n'y en a pas beaucoup qui sont d'un niveau supérieur. Je suis donc très heureux pour tout le monde car chacun a fait un match exceptionnel. Il faut qu'on arrive à tous se motiver pour toutes nos échéances. Ça a toujours été les petits détails qui ont fait la différence, qui ont fait de Manchester City un club spécial qui a bâti tous ses succès. Ces petites différences, la volonté de chacun de se donner à fond et de se sacrifier pour son coéquipier.
Et de son côté, Liverpool enchaîne une 4e défaite en 5 matchs en Première Ligue, où les Reds tenants du titre ne sont que 8e. L'éclaircie aura été de courte durée, donc après leur victoire de la semaine dernière contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real qui n'a pas su trouver la faille hier sur la pelouse du Rayo Vallecano. Le FC Barcelone en a profité pour revenir à 3 points. Les Blaugrana vainqueurs chez le Celta Vigo, 4-2 grâce à un but de Lamine Yamal et surtout un triplé de Robert Lewandowski.
Victor Missisrano, donc pour RFI. Allez, on parle de Formule 1 maintenant. Le Grand Prix du Brésil, c'était ce week-end. C'est toujours un moment mythique dans la saison de Formule 1. Grand Prix remporté par le Britannique Lando Norris.
It was a great race. I mean, it was well managed, well executed. Good starts, pit stops, decent strategy. It was just, it's been a good weekend once again, you know. So very happy. I was just very happy. I think I was pushing. It was still not an easy race. Like, I had to manage the tyres a lot. The pace was great, clearly. I think it wasn't the easiest of race in terms of managing tyres. And I think we're missing out a little bit to Max, for instance, who was very fast. But otherwise, just a perfect weekend in terms of... every session, every quality, every race, just what I need to do.
Lando Norris, donc, après ce Grand Prix de Formule 1... Et le Britannique qui engrange 25 points, qui lui donne une bonne marge maintenant face à son plus grand rival, son coéquipier, l'Australien Oscar Piastri, qui lui n'aura fini que 5e de ce Grand Prix du Brésil. Une belle remontée, une remontada, on pourrait dire, avec Max Verstappen parti donc dernier de la ligne des stands. Il finira finalement troisième de ce Grand Prix sur le podium, le Néerlandais. On l'écoute.
It was a very good race, even with a puncture as well in the race. So I had a good first lap after the safety car. Already overtook some guys, but then yeah, somehow we picked up that puncture, maybe from some debris that flew off in front of me in the first lap. But then yeah, I think we had strong pace. We did the right calls as well with the strategy, and to be on the podium from the pit lane is something that I definitely didn't expect jumping into the car this morning. But at the same time, I was looking forward to it. I was excited. I also want to say a big thank you to the team, because it's been tough, but we are all, you know, in this together, and we never gave up. We take risk, yes, but I like that. To always try and be better.
Max Verstappen. Du côté des Français, côté tricolore, 8e place pour Isaac Hadjar, et il n'est pas forcément content. On l'écoute.
Starting 5th and finishing 8th definitely is a bad result. Still good amount of points for the team, but we're sleeping on the first stint, really. Then after that, the race was good, but costly mistake.
Isaac Hadjar, 8e. Par contre, quelqu'un qui est content avec sa 10e place et son point apporté à l'équipe alpine, c'est Pierre Gasly, puisque ça fait un petit moment que l'équipe française n'avait pas marqué de points sur le week-end de Formule 1. On l'écoute.
Very happy. I mean, we didn't score point on Sunday since Spa before the summer break, so it's been, you know, a long 3 months. And this weekend, you know, we just had a good car. We managed to score 1 point yesterday in the sprint and another point today, which was pretty difficult. So I'm pleased. It was a tough battle with Isaac. I managed to, you know, like dive twice into turn one, and fortunately it was getting me back every time in the straight before turn four. So spent quite a lot of time. I think I'm going to have nightmares of that rear V-cap, rear wing tonight, but I think overall, you know, they were fighting for, I think they got a podium this year, right? Big out. So they've been pretty strong, and just to be in that mix showed we had a good car this weekend.
Pierre Gasly donc à la fin du Grand Prix du Brésil. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS Emmanuel Crane et Bernard Hay. Bonjour à vous deux.
Bonjour Jean-Noël, ravi d'être à SBS avec vous.
Vous êtes attaché à la marine française?
Réserviste citoyenne de la marine nationale.
Et moi-même, je suis gendarme, et non pas marin, mais très attaché à toutes les questions de défense, notamment à La Réunion, avec l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale et la gendarmerie.
On va parler du voyage de l'Astrolabe qui a quitté La Réunion et qui a fait escale à Fremantle récemment. Et puis l'Astrolabe était à Hobart et puis se dirige maintenant, en ce moment même, vers l'Antarctique, c'est ça ?
Absolument, Jean-Noël. L'Astrolabe est parti de La Réunion, a fait sa grande traversée, s'est arrêté à Perth pour une première fois, pour une escale de 5 jours, et sur laquelle nous avons pu participer avec Bernard Hay à un workshop qui portait donc sur l'océan Indien et tout ce qui touche à la sécurité et la défense. Et puis ensuite, j'ai eu le plaisir de pouvoir monter à bord à Perth pour ensuite débarquer à Hobart. Et grande première, pour la première fois, nous avions à bord 3 officiers australiens parmi nous.
Parlez-nous un petit peu de l'Astrolabe.
Alors, l'Astrolabe est un bateau rouge vermillon, très, très atypique par rapport au bateau de l'armée, avec une forme très particulière, puisque c'est le seul brise-glace de l'armée française, et qui est très hybride, puisque financé par les terres australes antarctiques françaises, je dirais avec un partenariat fort avec l'IPEV pour la recherche scientifique et ceux qui conduisent la manœuvre, la Marine nationale. Donc ce qui en fait un navire atypique qui est à Port des Galets, un troisième port militaire français à La Réunion, et qui a des missions tour à tour dans l'Antarctique, mais aussi dans le canal du Mozambique, dans les îles Éparses, et bien entendu plus au sud, toujours plus sud, vers les Kerguelen, Amsterdam, et d'autres contrées aux confins du Cap de Bonne-Espérance, avec des missions de surveillance des pêches, particulièrement, et des trafics illégaux.
Et le navire est basé à La Réunion, généralement ?
Complètement, en principe, ouais. C'est sa base d'attache, son point d'attache. Donc c'est le port de La Réunion, comme les terres australes antarctiques françaises, administrées par une préfète administrateur supérieur, donc à Saint-Pierre de La Réunion. Donc c'est un point extrêmement important pour notre territoire d'outre-mer, de l'océan Indien, La Réunion.
Et peut-être à rappeler également que La Réunion est le troisième port militaire français.
Et donc, Bernard, je reviens vers vous. Quelles étaient un petit peu vos impressions ? C'était votre premier voyage entre La Réunion et Fremantle ?
Alors, c'était pas mon premier voyage, mais pour le coup, j'ai pas fait le déplacement moi en bateau. Mm-hmm. J'ai pris un avion, et donc évidemment, je découvrais pour la première fois donc la base, enfin le port de Fremantle, qui est un port extraordinaire, un port de commerce, hein, comme vous le savez, hein, où était à quai l'Astrolabe, et ça a été pour nous l'occasion surtout de rencontrer un certain nombre de chercheurs avec qui nous travaillons généralement à distance, pour certains que nous invitons à La Réunion lors des journées d'études indo-pacifiques, pour travailler sur cet axe indo-pacifique, mais avec une vision océan Indien, et dans une vision assez élargie, donc des problématiques indo-pacifiques.
Et à Hobart, on peut parler de votre visite, de l'escale à Hobart.
Je le disais, il y avait parmi nous 3 officiers... Australiens, donc qui ont débarqué comme moi au Hobart avant que l'Astrolabe ne continue vers l'Antarctique. Et puis, pour clôturer cette belle aventure, j'ai pu remettre à travers l'artiste aborigène australienne Constantina un très beau tableau qu'elle a fait pour la Marine nationale en donation pour le 400e anniversaire de la Marine nationale. Voilà, donc c'était avec certaines autorités australiennes et françaises étaient présentes, et c'était la remise de ce beau tableau qui concrétise un peu ce que représente l'Astrolabe, c'est-à-dire la Marine nationale, la science, les scientifiques, l'IPEV, comme le disait Bernard Hay, donc l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor. Et donc quelques jours d'escale avant de repartir dans les cointrées un peu plus au sud.
Peut-on parler des relations Australie-France ? J'imagine qu'elles se portent très bien dans le domaine de la coopération, de promouvoir l'océan Indien comme zone de paix. Bernard ?
Complètement, Jean-Noël, c'est un vrai sujet qui nous occupe sur 3 dimensions. Vous savez que l'Australie est la plus longue frontière maritime avec la France, dans le domaine maritime, donc en particulier avec l'Antarctique et l'océan Indien, et des sujets de sécurité maritime qui sont réellement au cœur des discussions entre militaires, et plus particulièrement pour nous, qui favorisons des espaces de dialogue, de recherche académique, notamment avec la marge occidentale, la plus occidentale de l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire le canal du Mozambique et toute l'Afrique australe orientale, du Kenya, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud, qui constitue un enjeu majeur aussi de la paix et de la sécurité dans cette zone.
On va parler peut-être maintenant de ces journées Indo-Pacifique que vous aviez organisées au mois de février dernier. Emmanuel, la réunion va avoir lieu à nouveau en février prochain.
Alors nous étions très heureux d'avoir l'Australie comme invité d'honneur pour l'édition 2025. On recommence, on récidive, j'allais dire, le 25 et 26 février 2026, en partenariat avec l'Université de la Réunion, avec pour thématique économie bleue et sécurité. Et l'Australie sera toujours invité d'honneur, mais aux côtés de l'Inde et du Sri Lanka aussi. Donc on est très très heureux que cette troisième édition puisse avoir lieu. Et puis c'est également une façon de concrétiser pour nous la naissance d'un institut qui s'appelle The Indo-Pacific Institute, basé à La Réunion, institut de géopolitique donc, que nous créons à la suite de ces journées d'études.
La dernière fois, on avait parlé du projet, je crois, Safe Seas Africa. Ça avance, ce projet ?
Oui, alors nous continuerons aussi, mais je vais peut-être céder la parole à Bernard.
Alors c'est un projet effectivement porté par la Commission de l'Océan Indien concernant à la fois la sécurité maritime, les enjeux de sécurité maritime dans toute, je dirais, la sphère de compétence de la Commission de l'Océan Indien, c'est-à-dire les Seychelles, Madagascar, Maurice, La Réunion, et élargi à l'ensemble de la côte africaine orientale australe, la Tanzanie, le Mozambique, pour avoir des procédures mieux maîtrisées, l'ensemble de la sécurité maritime, notamment la pêche illégale, et plus globalement sur les enjeux de surveillance des espaces maritimes dans les zones économiques exclusives.
Le Vendémiaire va faire escale bientôt en Australie. Que diriez-vous aux Australiens qui nous écoutent pour peut-être profiter des journées portes ouvertes, découvrir le travail que fait la France dans cette région du monde?
Alors le Vendémiaire, son port d'attache est à Nouméa. C'est un navire que j'ai eu le bonheur, sur lequel j'ai eu le bonheur de pouvoir embarquer, qui fait des missions donc dans l'océan Pacifique et dans plus au nord vers l'Asie, qui est une vieille dame. C'est un navire qui a déjà un certain nombre d'années et qui permet de découvrir le milieu militaire, le milieu des marins. Nous vivons une période un peu plus tendue qu'il y a quelques années, et donc cela permet aux Australiens aussi de comprendre quelles sont nos compétences maritimes de la Marine nationale, et puis surtout comment nous travaillons entre Français et Australiens dans la zone afin de sécuriser nos océans, sécuriser la région et de promouvoir la paix dans cet océan qui nous rapproche.
Je reviens sur l'Astrolabe. Vous, Bernard, vous allez revenir à l'île de la Réunion prochainement, d'après ce que je comprends. Vous faites visiter l'Astrolabe aux élèves
L'Astrolabe, comme l'ensemble des bâtiments de la Marine nationale basés à Port-de-Galais, sont parrainés, marrainés avec un certain nombre d'établissements scolaires dans un dispositif tout à fait singulier et original qu'on appelle classe défense. Donc les jeunes, et l'Astrolabe est lui-même parrain d'un établissement scolaire, et c'est toujours des portes ouvertes qui ont lieu une fois par an aussi pour découvrir ces missions toujours plus sud vers l'Antarctique, mais les Kerguelen, tous ces mers au-delà des 40e et 50e parallèles, et mieux comprendre les missions de la Marine nationale qui, comme l'ensemble des territoires d'outre-mer, est un acteur majeur de la sécurité pour nos, îles fragiles, et en particulier sur actuellement le sujet de la drogue, les routes de la drogue, la criminalité. Cette surveillance accrue permet de sécuriser cet océan et d'avoir un espace free, open, Indo-Pacific, de libre circulation. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la coopération France-Australie, mais pour l'ensemble des acteurs alliés à la France, et en particulier l'Inde pour la Réunion, donc, qui est aussi un partenaire stratégique donc, dans cette zone du monde.
Emmanuel Crane et Bernard Hay, merci d'être venus nous rendre visite à SBS en Australie.
C'est un vrai plaisir. Merci, merci Jean-Noël. Et on est ravis de faire la connexion La Réunion, Australie et la Nouvelle-Calédonie.
Merci Jean-Noël. C'était un plaisir de faire votre rencontre. Merci de votre accueil chaleureux et bien le bonjour à vos auditeurs.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h49 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver Elisa Trandin. Bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de Radio SBS.
Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Toujours un plaisir de parler avec vous.
Alors, je rappelle que vous êtes la présidente du Petit Théâtre de Sydney et on va parler de la nouvelle production qui est en cours. C'est les, non pas les héros, mais les héros de mon enfance qui sera joué prochainement à Sydney du 11 au 15 novembre. Alors, Elisa, peut-être pour commencer, racontez-nous un petit peu ce nouveau spectacle.
Oui, tout à fait. Donc, comme vous venez de dire, notre nouvelle pièce s'intitule donc « Les héros de mon enfance ». Donc, c'est une comédie complètement déjantée qui revisite les contes de fées, mais version adulte. Donc, on y retrouve tous les héros de notre enfance, donc Cendrillon, le petit poucé, le petit chaperon rouge, le loup, la belle au bois dormant et d'autres aussi. Mais cette fois, ils ne sont beaucoup plus, ils ne sont plus très sages, on va dire. Ils se disputent, ils se moquent, se transforment. Et surtout, ils révèlent un petit peu toute la part d'ombre qu'on ne voit pas forcément dans les versions pour enfants. Donc c'est à la fois drôle, absurde, parfois un peu trash, mais surtout très très moderne dans le ton. On y parle d'identité, d'ego, de morale, mais le tout avec beaucoup, beaucoup d'humour. Voilà.
Et l'auteur de cette pièce, c'est qui ?
L'auteur de cette pièce, donc, c'est un auteur canadien qui s'appelle Michel Tremblay. Donc la pièce telle que nous l'avons mise en scène a été adaptée et mise en scène par un membre de notre association qui s'appelle Stéphane Vérité. Et nous avons repris le texte et nous l'avons un petit peu adapté parce qu'à la base, l'auteur l'avait écrit comme une comédie musicale. Malheureusement, nous n'avons pas de talent de chanteur dans notre association, plus des talents d'acteur. Donc, nous l'avons réadapté en pièce de théâtre pour adultes.
Et vous avez combien d'interprètes sur scène ?
Alors, sur scène, nous avons 9 acteurs qui représentent tous un personnage de conte différent. Enfin, la version adulte, disons, de ce personnage de conte. Et c'est sans compter, évidemment, toutes les petites mains qui nous aident en backstage pour faire les décors, pour faire les costumes fabuleux, qui nous aident également pour les sous-titres, parce que toutes nos pièces sont effectivement représentées en français et sous-titrées en anglais pour pouvoir être accessibles à tous. Et c'est très important pour nous que ce soit accessible à tous. Et nous avons donc également des personnes qui s'occupent de la traduction, des sous-titres, mais aussi de faire défiler les sous-titres pendant qu'on joue sur scène. Voilà.
Alors, quel est le message que vous auriez pour encourager les gens à venir voir les héros de mon enfance ?
Eh bien, tout simplement parce que c'est un moment de pur plaisir, d'humour et d'autodérision, parce que ça change du théâtre classique et surtout parce qu'on y retrouve tous les héros, en l'occurrence les héros de notre enfance, dans une espèce d'immense chaos hilarant et voilà, ça fait du bien.
Absolument. Donc, on va profiter de l'occasion pour rappeler peut-être aux auditeurs à nouveau l'historique du Petit Théâtre de Sydney qui existe, je crois, depuis une dizaine d'années.
C'est exact. On vient juste de fêter les 10 ans de notre association en septembre. Donc, le Petit Théâtre Sydney est une association de théâtre en français, qui a pour vocation de promouvoir la langue et la culture francophone en Australie. Donc, d'où le message très important pour nous d'avoir toutes nos représentations avec des sous-titres en anglais qui sont assez gros et en backstage, donc qui permettent à l'audience de pouvoir, qui n'est pas forcément francophone mais qui peut être anglophone aussi, cette audience peut également regarder ce qui se passe sur scène, voir ce qui se passe sur scène et voir les sous-titres sans avoir à bouger de la tête comme pendant un match de tennis, mais pouvoir avoir une vue d'ensemble et comprendre tout ce qui se passe à tout moment. Voilà.
Alors le spectacle qui arrive, c'est le deuxième spectacle de l'année. Il y a eu, je crois, le prénom dont on en avait parlé au mois de mai. Ça a été un bon bilan pour vous ?
Oui, le prénom s'est très bien passé. On a eu de très belles reviews. On était sold out sur 4 soirs sur 5. Donc on espère avoir un aussi beau succès pour les héros de mon enfance. En comparaison, la différence, c'est qu'effectivement, le prénom est donc basé sur une pièce qui est déjà très connue et très populaire et qui a également été adaptée à l'écran. Les héros de notre enfance, on a voulu tenter quelque chose de différent. Nous avons lu cette pièce qui nous a énormément fait rire. On a pris beaucoup de plaisir à la lire et on rigole beaucoup aussi en répétition. Donc, on espère que les références aux héros dont on a tous entendu parler dans notre enfance plairont également au public et que vous viendrez nombreux. Voilà.
Et donc, pour rappel, ce sera du 11 au 15 novembre et c'est au Pact Theatre à Erskineville. Parlez-nous de ce théâtre, Pact Theatre.
Oui, alors le Pact Theatre à Erskineville est un théâtre avec lequel nous avons eu beaucoup de partenariats au fur et à mesure des années, mais qui est surtout un espace culturel qui a pour vocation de donner un espace à n'importe quel artiste de pouvoir s'exprimer, que ce soit en théâtre, en musique, en dessin, en peinture, en photographie, en tout ce que vous voulez. Et ça répond directement à notre mission de base aussi. Donc, on a toujours un plaisir fou à jouer dans ce théâtre. Donc, c'est le Pax Theatre à Erskineville. Et comme vous le disiez, c'est du 11 au 15 novembre à partir de 19h30.
Et d'autres informations sur le site du Petit Théâtre de Sydney, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc, vous pouvez trouver toutes nos informations sur le site lepetitteatresydney.org.au. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours à jour sur notre Facebook et notre Instagram. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.
Un dernier message, Elisa. Peut-être, je crois que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux membres.
Toujours, on adore recevoir de nouveaux membres, on adore, le principe d'une association c'est qu'elle est vivante de toute façon, qu'elle n'est pas figée. Nous avons eu beaucoup de retours de gens qui pensaient que nous étions une troupe d'acteurs professionnels. Alors pas du tout, je dirais que nous sommes une association, nous sommes tous amateurs. Nous avons tous des travails à plein temps aussi le reste du temps et nous sommes toujours ravis d'accueillir de nouveaux membres, qu'ils soient francophones ou que ce soit des gens qui apprennent la langue française ou qui sont juste simplement intéressés de manière générale par la culture française. Nous sommes toujours ravis d'avoir du monde parmi nous et nous avons toujours besoin d'aide, que ce soit non seulement des gens qui veulent monter sur scène, mais aussi des gens qui veulent mettre en scène, aider aux lumières, aider au décor, aider à la logistique aussi, aider sur les sous-titres. Donc nous sommes toujours ravis d'avoir de nouveaux visages qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous rejoindre à l'occasion et venir nous parler à la fin de la pièce. Si vous venez nous voir pendant les héros de mon enfance, vous pouvez toujours rester à la fin de la pièce pour nous parler et nous poser plus de questions si vous en avez.
Elisa, merci et meilleurs vœux pour les héros de mon enfance.
Merci beaucoup, merci à vous Jean-Noël.
À bientôt, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi en France. Nicolas Sarkozy est sorti de prison. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de l'ancien président français sous contrôle judiciaire. Et puis l'Australie a observé une minute de silence pour commémorer le 107e anniversaire de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à 13h sur les ondes de SBS French. Bel après-midi, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.